Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Quand un ambassadeur attaque Marine Le Pen, Thierry Dana, en poste au Japon, annonce qu'il quittera le corps diplomatique en cas de victoire du Front National à la présidentielle. Les explications de Valérie Crova dans un instant. Robert Ménard, jugé en correctionnel pour avoir qualifié de problème la présence de 91% d'enfants musulmans dans une classe de Béziers. Le procureur a requis une amende de 1 800 € contre le maire de la ville. Le compte-rendu d'audience de Delphine Gauthier. Wikileaks accuse la CIA d'espionner certains suspects à travers leur smartphone ou leur ordinateur. On en parle avec notre invitée, la chercheuse Alix Desforges, spécialiste de cyberstratégie. L'initiative est exceptionnelle et suscite d'ores et déjà la polémique. Thierry Dana, l'ambassadeur de France au Japon, s'en prend à Marine Le Pen dans une tribune au quotidien Le Monde. Il annonce qu'il se mettra en réserve de toute fonction diplomatique si la candidate du FN remporte la présidentielle. Une prise de position qui met dans l'embarras le gouvernement, obligé de rappeler le devoir de réserve auquel sont soumis les diplomates. Mais Thierry Dana a aussi reçu le soutien de son collègue à Washington, Valérie Crova.
Cet ancien conseiller de Jacques Chirac pour les questions asiatiques sort de la réserve que lui confère en principe sa fonction. Il utilise des formules qui n'ont rien de diplomatique à l'égard de la candidate du Front National jugée plus tôt. La France est conquérante et vous voulez en faire un précaré. La France est généreuse et vous voulez en faire une boutique repliée sur elle-même. La France est créative et votre vision sent le rance. Thierry Dana, qui doit quitter cet été le Japon pour une nouvelle affectation, précise que si d'ici là, Marine Le Pen était élue, il y renoncerait la mort dans l'âme plutôt que de servir la diplomatie du Front National. Une diplomatie qui, dit-il, va à l'encontre des principes de René Cassin, qui ont fondé les Nations Unies, et de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a jugé bon de rappeler, dans une note interne, le devoir de réserve et le principe de neutralité auquel les diplomates sont soumis. Cela n'a pas empêché l'ambassadeur de France à Washington de commenter la tribune de son homologue en la qualifiant de très beau texte. Du côté du Front National, la lecture est évidemment tout autre. Dans un tweet, le vice-président du FN, Florent Philippot, lance à Thierry Dana démissionner, pas de problème, tandis que sur son compte officiel, Marine Le Pen ne se laisse pas démonter. Un ambassadeur, ça se change, écrit la présidente du Front National.
Valérie Crova, merci. Et pendant ce temps-là, un proche de Marine Le Pen se retrouve en justice. Robert Ménard comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine raciale. En septembre dernier, le maire de Béziers avait déclaré, je cite, « Dans une classe de centre-ville, chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème. » Fin de citation. Sur Twitter, il avait aussi expliqué qu'il suffisait de regarder d'anciennes photos de classe pour prouver, je cite, le grand remplacement. Ce soir, le procureur a requis 1 800 € d'amende contre Robert Ménard. Le compte-rendu d'audience de Delphine Gauthier.
Ce procès, c'est une tribune pour Robert Ménard. Le cofondateur de Reporters sans frontières assume pleinement ses propos. Il le répète d'ailleurs à l'envi. Lorsque la présidente l'interroge, comment pouvez-vous dire que 91% des enfants d'une école sont musulmans ? Mais madame, ça saute aux yeux, lance Robert Ménard. Je me contente de dire ce qu'il en est de la réalité. Il y a 25 ans, les écoles n'étaient pas composées de la même façon, poursuit le maire de Béziers. Les mamans n'étaient pas les mêmes mamans. Mais il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou mal, assure Robert Ménard, qui se fait alors le chantre de la mixité et du vivre ensemble. Quand je m'emploie à décrire la réalité, ce n'est pas pour stigmatiser ou montrer du doigt, mais pour trouver des solutions. Murmure dans la salle, même bruissement quelques minutes plus tard, lorsque Robert Ménard clame qu'il a, dit-il, passé sa vie à combattre le racisme et qu'il vit comme infamant le fait d'être accusé de cela.
Delphine Gauthier, merci. Le jugement a été mis en délibéré au 25 avril prochain. Polémique après les violents incidents survenus hier au lycée Sugère à Saint-Denis. Une cinquantaine de jeunes ont été interpellés. 8 d'entre eux, tous mineurs, vont être présentés à la justice pour violence sur les policiers, attroupement armé et rébellion. Les autres jeunes ont été relâchés. François Fillon parle d'une véritable émeute que le gouvernement aurait laissé se développer. Marine Le Pen accuse le Premier ministre Bernard Cazeneuve de ne rien faire, je cite, trop occupé à faire campagne contre ma candidature. Réponse du Premier ministre. Il met en garde ceux qui cherchent à exploiter des violences inacceptables à des fins électorales. L'actualité à l'étranger, en Afghanistan, l'État islamique frappe au cœur de Kaboul. Le groupe djihadiste a revendiqué l'attaque du principal hôpital militaire du pays. Le dernier bilan fait état d'une quarantaine de morts parmi le personnel soignant et les patients. Nabila Hamel, les autorités afghanes semblent incapables d'empêcher ces attaques terroristes.
Entre les attaques des talibans et celles du groupe État islamique nouvellement implanté dans le pays, cette année risque d'être aussi, sinon plus meurtrière que 2016, où un recensement de l'ONU évaluait le nombre de victimes civiles à près de 5000 morts et 8000 blessés, soit le bilan le plus lourd depuis 2009. Des attaques audacieuses, comme celle d'hier, sont menées dans des secteurs de la capitale afghane censés être sécurisés, mais à y regarder de plus près, le conflit a rattrapé l'ensemble des 34 provinces du pays. Une étude du Congrès américain affirmait que le gouvernement afghan contrôle moins de 60% du territoire. Les attaques sont certes principalement le fait des talibans, mais aujourd'hui, la situation se complique car il y a une autre force sur place, le groupe État islamique. Selon certains experts de la région, de nombreux déçus de l'insurrection talibane ont rejoint les rangs de l'EI, principalement dans l'est du pays. L'organisation djihadiste prenait pour cible des membres de la minorité chiite d'Afghanistan, notamment les Hazaras. En revendiquant hier l'attaque contre l'hôpital militaire de la capitale, l'EI semble avoir élargi son champ d'action en Afghanistan. Le général américain John Nicholson, commandant des forces de l'OTAN sur place, avait reconnu le mois dernier la difficulté des forces afghanes à maîtriser l'insurrection. Il a d'ailleurs plaidé pour un renfort de plusieurs milliers de soldats au sein de la force internationale.
Nabila Hamel, merci. On poursuit ce journal avec les dernières révélations de Wikileaks. Le site de Julian Assange vient de publier un certain nombre de documents présentés comme venant de la CIA. On y apprend que l'agence américaine aurait les moyens de pirater nos objets numériques quotidiens, smartphones, ordinateurs et même télévisions connectées à Internet. Invitée de ce journal, la chercheuse Alix Desforges, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez pour la chaire Castex de cyberstratégie, un organisme financé par l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Alors première question, Alix Desforges, quelle est la nature exacte des programmes de piratage révélés par Wikileaks? Est-ce que la CIA a décidé d'espionner tout le monde sans discrimination?
Alors, en l'état, aujourd'hui, les révélations faites par Wikileaks, si ces documents sont authentifiés, et a priori les experts tendent à dire qu'ils le seront, concernent donc la CIA, mais ne concernent pas, par exemple, un espionnage de masse. On est plutôt sur des outils qui concernent un espionnage ciblé.
La CIA aurait les moyens d'espionner quelqu'un en piratant son smartphone, son ordinateur ou sa télévision, c'est bien ça ?
Effectivement, ce que révèlent les quelques 9000 documents publiés par Wikileaks, là, c'est que la CIA dispose de tout un tas d'exploits. Donc un exploit, c'est l'exploitation de vulnérabilités informatiques afin de pénétrer un système. Donc dispose de tout un tas d'exploits qui permettent d'entrer sur différents appareils, téléphones, tablettes, ordinateurs, même Smart TV, un exemple est cité, et ou encore aussi en fonction de leur version, de leur système d'exploitation.
Ce que vous appelez l'exploit, en fait, il s'agit de failles dans les appareils ?
C'est l'exploitation de la faille dans les appareils. La faille, elle est souvent involontaire, hein. Elle peut résulter d'un bug ou d'un problème dans le code. En soi, les hackers ou la CIA ou la NSA, on l'a vu aussi avec l'exemple de l'Equation Group cet été, va chercher des failles afin de les exploiter, afin de pénétrer des systèmes informatiques dans le but de faire de l'espionnage dans ces cas-là.
Concrètement, la CIA peut écouter les conversations de la personne espionnée à partir de son smartphone ?
Dans les cas qui ont été évoqués, enfin publiés par Wikileaks, il y a tout un tas d'exploits, donc c'est difficile de définir précisément ce que fait chacun. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été cités. En tout cas, l'idée générale, c'est de pouvoir avoir accès à la machine, au téléphone ou à l'ordinateur, et de pouvoir voir tout ce qui se passe sur la machine. Donc ça pourrait être pour déclencher les micros pour écouter, ou ça peut être pour voir les mots de passe tapés, ou les mails envoyés, etc.
Et quand on parle d'une télévision qui serait espionnée, comment ça marche ?
Dans le cas de la télévision évoquée par Wikileaks, donc il faut toujours vérifier évidemment les informations, les recouper encore pour être sûr. Mais je crois que l'idée c'était que l'utilisateur croit que la télé est éteinte alors que la télé enregistre ses conversations et ce qui se passe dans la pièce.
Alix Desforges, tout ça finalement signifie que les constructeurs n'ont pas réussi à protéger leur matériel de ces intrusions ?
Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que tout matériel informatique est vulnérable par définition. Un matériel 100% sécurisé, ça n'existe pas. En matière de cybersécurité, il y a toujours une faille quelque part. Donc, en fait, ça n'interroge pas forcément la capacité des opérateurs ou des constructeurs à mettre en place des systèmes 100% sécurisés parce que c'est impossible par définition. Pour moi, ça interroge plutôt la position officielle des États-Unis en matière de notification de ces failles aux entreprises qui conçoivent les outils. La ligne officielle américaine, c'est d'informer l'entreprise concernée de l'existence d'une vulnérabilité afin que l'entreprise puisse la corriger et donc ainsi augmenter le niveau de sécurité de tout le monde. Mais cette décision doit être prise en faisant la balance entre les avantages de garder cette vulnérabilité secrète à des fins d'espionnage pour les États-Unis et les inconvénients, à savoir affaiblir le niveau de sécurité de tout le monde. Et par exemple, dans les questions qui doivent se poser, c'est est-ce que la vulnérabilité en question touche un système critique qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité des États-Unis? Quel est le niveau de risque de cette vulnérabilité? À quel point les renseignements dont pourrait être issue cette vulnérabilité, nécessaire de les obtenir avec l'exploitation de ces vulnérabilités? Est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être d'obtenir ce type d'informations, etc. En fait, ça interroge cette ligne officielle des États-Unis qui est de dire par défaut, on va plutôt aller vers la notification des failles. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que la CIA agit de son propre chef en enfreignant la ligne posée par le gouvernement, à l'époque le gouvernement Obama, ou est-ce qu'elle l'a fait avec son accord? Et là, on est dans autre chose.
Et là, aujourd'hui, les Américains ne notifient rien aux utilisateurs, aux constructeurs.
Il y a des choses si qui sont notifiées, évidemment. À chaque fois, ils doivent donc se poser tout un tas de questions pour faire la balance entre les avantages et les inconvénients dont je parlais. Donc, il y a déjà des process, mais en tout cas, là, ce que semblent montrer les documents de Wikileaks, c'est qu'ils ne partagent pas tout.
Si l'on vous suit bien, Alix Desforges, il n'existe pas aujourd'hui de parade technique à ces intrusions.
Ça dépend. J'ai vu que plusieurs entreprises ont réagi à ces publications. Par exemple, Apple a dit que certaines de ces failles avaient été corrigées lors de la dernière version de leur système d'exploitation iOS. Maintenant, il doit certainement en rester encore à corriger. Donc, il y avait des failles qui étaient assez récentes, qui ont pu être en partie corrigées ou qui le seront à l'avenir. En tout cas, c'est sûr qu'il va falloir travailler.
Alix Desforges, est-ce que cette affaire confirme la supériorité numérique des États-Unis ?
Très clairement, je crois que les États-Unis restent aujourd'hui l'acteur majeur sur ces questions-là et est très en avance en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, et notamment sur le volet offensif.
Bien plus que la Russie, par exemple.
Très certainement, oui.
Alix Desforges, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. À l'occasion de la Journée de la Femme, nous partons en Argentine ce soir. Un pays où les violences faites aux femmes font des centaines de victimes chaque année, surtout dans la cellule familiale. Le collectif argentin Ni Una Menos, Ni Une de Moins, est à l'origine de l'appel à une grève internationale des femmes, invitée à cesser le travail aujourd'hui en signe d'insoumission collective. Le mouvement a été suivi dans une cinquantaine de pays, dont la France. Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Ni Una Menos a en effet réussi à mobiliser des femmes sur tous les continents. Né en 2015 seulement, ce collectif organisait des marathons de lecture à Buenos Aires. Mais sa force a été sans aucun doute l'insertion d'un message simple sur les réseaux sociaux. Pas une de moins, plus une seule victime de féminicide. Et plus les médias relataient de nouveaux faits divers, plus les réseaux sociaux s'agitaient et plus les femmes sentaient le besoin de s'unir. Marta Dichon, journaliste, écrivaine et membre de Ni Una Menos.
Au début, on a mis en place une consigne dans la rue qui était suffisamment vaste pour intégrer un maximum de personnes. Ensuite, des sentiments plus féministes se sont développés, mais c'est vrai que ça a généré un débordement de volonté des femmes à débattre de ces sujets, d'analyser leur situation professionnelle et personnelle avec les tâches ménagères. C'est une fierté, bien sûr, mais surtout une joie de sentir que notre discours peut influencer l'expérience d'autres personnes et que ce discours soit adapté, modifié selon les conjonctures, les réalités et les territoires de chacun. C'est un grand moment pour être féministe.
Et avec cet appel à une mobilisation internationale, il semble que les Argentines soient plus que jamais déterminées à lutter dans un pays à la situation alarmante. Depuis janvier 2017, une femme meurt en Argentine toutes les 20 heures. Mais les Argentines sont bien décidées à lutter en vue d'un monde plus égalitaire et même peut-être, comme elles disent, d'une nouvelle révolution latino-américaine.
Caroline. Caroline Vic, correspondante à Buenos Aires. Et puis notez que Radio France s'engage à renforcer la présence des femmes sur ses antennes, dont France Culture. L'objectif fixé par le PDG Mathieu Gallet, les femmes doivent représenter plus de 40% des intervenants à l'horizon 2020 contre 36% en 2016. La météo demain, temps gris et humide sur la plupart des régions avant le retour d'éclaircies dans l'après-midi. Il devrait faire beau dès le matin sur les régions méditerranéennes. Les températures maximales, 10 à 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 22 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.